Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro. Des paroles aux auditeurs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a investi par une ordonnance Denis Kadiba, président de la CENI, ainsi que d'autres membres de la centrale électorale qui succèdent à l'équipe Nanga. Aussi, le chef de l'État s'est adressé à la population avant la lecture de cette ordonnance sur la chaîne nationale. Félix Tshisekedi Tshilombo estime que le contexte de désignation et d'intérêt de ses membres n'est pas le même en 2020 avec Ronsard Malonda. Alors comment interprétez-vous le message du chef de l'État et que faire pour une tenue des élections apaisées, crédibles et transparentes en 2023? Vous pouvez participer à cette émission en composant bien entendu les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net. Vous êtes plus de 1500 à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Mais entre-temps, il faut interagir sur notre page Facebook avec l'ensemble d'internautes ici au pays et à l'étranger. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Lèche Walassa, Marcel Ngombombala et Bob Milando concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Lwabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ces studios professeur Tshibangu Kalala. C'est un réel plaisir de l'avoir à nouveau dans ces cadres pour échanger ensemble avec nous. Professeur, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo.
Alors, comme je l'ai dit, tout le plaisir est pour nous de vous revoir cette année après que nous ayons abordé cette question il y a une année.
Oui, exact.
Exactement, si mes calculs sont bons, le 26 octobre 2020.
Exact.
La question de le président de la République qui a tapé du poing sur la table et vous, à cette époque-là, vous avez me demander qu'il puisse renverser la table.
Exact.
Et nous y sommes. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que les contextes et même les conditions des désignations de nouveaux membres de la CENI en 2021 sont-ils similaires à ceux de 2020 avec l'équipe Ronsard Malonda?
Gilles Lungembo, je tiens tout d'abord à vous remercier, vous-même et toute l'équipe dirigeante de Radio Okapi, pour l'occasion que vous m'avez donnée aujourd'hui de donner mon point de vue sur cette question d'intérêt national. Je commence par saluer mes amis au Capi qui m'ont manqué depuis plusieurs mois. Gilles Lungembo, à la part du débat politique, de la surenchère politique, mais il y a le temps aussi de mener des actions pour faire avancer le pays. De mon point de vue, le président de la République a bien fait les choses. Il est resté toujours dans sa bonne trajectoire, le président sur une bonne trajectoire. Il a bien fait les choses. Il a laissé les ONG faire leur travail, les associations religieuses, conformément à la loi leur dit, vous avez le pouvoir de choisir le président de la CENI et d'avoir aussi un autre membre de votre groupe au sein de la CENI. Ces associations, ces ONG se sont réunies et ont fonctionné sur la base des règles que se sont elles-mêmes données. Enfin, ils ont une charte. D'après ce que nous savons et qui n'a pas été contredit, ils ont, les opérateurs religieux, ils ont dit, pour prendre les décisions à ce niveau, il y a deux modalités de prise de décision. Le consensus d'abord, si le consensus marche, tant mieux, mais si le consensus ne marche pas, nous allons passer au vote. Ce sont ces associations qui ont décidé de cette manière-là. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le président Bosso de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. C'est organisation autonome, interne. Qu'est-ce que nous apprenons? Le consensus n'a pas marché. Et par conséquent...
Il fallait passer au vote.
Il fallait passer au vote, indépendant. Pour les auditeurs de Radio Okapi, qu'est-ce que c'est que le consensus? Parce qu'on en parle tout le temps. Consensus, c'est quoi? Le consensus, c'est la tendance générale. C'est l'accord général sans qu'il y ait une opposition formelle. C'est un concept qui a été inventé dans le cadre des Nations Unies pour faciliter la prise de décision au cours de grandes conférences internationales de 3000, 4000 personnes qui se réunissent, comment décider. Et donc on ne va pas tout le temps passer au vote. On a inventé les diplomates, les juristes, ce concept de consensus. Donc,
c'est pas l'unanimité.
Le consensus n'est pas l'unanimité. L'unanimité, c'est le vote. Mm-hmm. L'unanimité, c'est le vote. Mm-hmm. Mais le consensus, c'est, il y a un débat qui se déroule, le président de la séance résume le débat et constate qu'il y a une tendance qui se dégage.
La tendance générale.
Il y a la balance qui semble pencher de tel côté. Et il pose la question, est-ce que vous pensez qu'on peut considérer qu'il y a un consensus dans tel sens? D'ailleurs, les techniciens définissent ça en disant, le consensus, c'est le silence qui s'instaure quand le président tape le marteau sur la table. Et quand il y a silence, c'est ça le consensus. Et donc, il n'y a pas eu consensus. Il y a eu deux confessions religieuses qui ont consisté à protester. Donc, il n'y a pas eu consensus. Et donc, on passe au vote. Le vote, on sait ce que c'est. Le vote, c'est le vote majoritaire. C'est la majorité qui l'emporte. Je note qu'on n'a pas instauré le système de vote pluriel. Qu'il n'y a pas de veto qu'on a accordé à telle ou telle confession religieuse parce qu'elle est puissante, elle a beaucoup de membres à travers le pays. Il n'y a pas le droit de veto, comme aux Nations Unies, au Conseil de sécurité notamment. Qu'il n'y a pas de vote pluriel, comme on le trouve dans certaines organisations, en disant, écoutez, l'Église catholique, que moi je respecte beaucoup, je reste l'Église catholique, l'Église catholique a beaucoup plus de fidèles à travers le pays, et donc la voix de l'Église catholique compte 10 fois, pas une fois. Mais on a instauré la démocratie parlementaire.
Au sein de la plateforme.
Oui. Une confession religieuse, une voix. Un homme, une voix. Un État, une voix. À l'Assemblée générale, aux Nations Unies, je donne un exemple. La Chine, c'est 1 milliard 300 millions d'habitants. Le Burundi, c'est à peine 10 millions. Mais quand on vote, la Chine a une voix. Le Burundi a une voix. Le Rwanda a une voix, ainsi de suite. Et donc, lorsqu'on vote, et que la Chine est dans la minorité, la Chine ne peut pas contester en disant, mais moi j'ai 1 milliard 100 millions, on ne tient pas compte de mon poids et moi je n'accepte pas la décision. Si cela a été mis clairement dans leur règlement intérieur ou la charte, ok. Mm-hmm. Mais il n'y a ni vote pluriel, il n'y a ni le veto, et donc il y a égalité démocratique. Donc si les associations se réunissent, il y a 6 qui dégagent la majorité et viennent présenter à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez que l'Assemblée nationale...
Mais parce qu'il s'agissait de privilégier les consensus qui devaient, selon encore vos propos, professeur, qui devaient être constatés, ou la tendance générale devait être constatée par le président. Et la charte même donne les prérogatives au président d'engager la plateforme vis-à-vis des tierces.
Jelungembo, ça c'est une affaire interne.
Une affaire privée.
C'est un privé. L'État n'est pas là-dedans. Ce sont les associations. Ils n'ont qu'à régler ce problème-là entre eux. Dès lors que les associations viennent au niveau des institutions publiques, à l'Assemblée nationale, disent oui. Sur 8, nous sommes 6, nous sommes d'accord, nous avons désigné un candidat. Et on leur a donné encore plusieurs occasions. Allez vous retrouver encore. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un consensus? Le président Mboto a été très sage et très patient. Malgré cela, il n'y a pas eu ce consensus. Et en fin de compte, on constate qu'il y a eu un vote majoritaire.
Mais finalement, on se rend compte que dans la politique, il y a l'irrationnel, l'irrationalisme. Je ne sais même pas si je peux appeler ça ici. L'irrationalité, voilà. Donc, Malonda a été rejeté. Aujourd'hui, Denis est accepté. Mais on dit, tout se passe dans les conditions différentes.
Oui, mais c'est vrai que la politique est irrationnelle. Dans la politique, il y a tout le système de deux poids, deux mesures. Elle est irrationnelle, c'est vrai. Mais dans le cas d'espèce, le contexte est différent. Le président a très bien expliqué les choses. Il faut comparer ce qui est comparable. Ce qui s'est passé à l'époque de Malonda, parce qu'il n'y a eu même pas un débat d'entraînement au sein de l'Assemblée nationale. C'est clair. À l'époque, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui dit « Oui, nous avons déjà un candidat ici, on va l'envoyer ». Quand est-ce qu'on a débattu?
Jusque-là, on ne connaît même pas les noms d'autres membres à part Ronsard Malonda.
Oui, oui.
Ça veut dire que la liste était incomplète.
Mais on envoie un seul nom au président de la République pour entériner. Et les autres composantes, parce qu'ils étaient 13 à l'époque. Et les 12 autres, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le contexte n'est pas le même. Et le président a très bien expliqué les choses. Ça me plaît pas. Et donc, pour moi, de l'extérieur, je considère que ce qui a été fait au sein de confessions religieuses, c'est conforme à la loi que ces confessions elles-mêmes se sont données. Consensus, ok. S'il n'y a pas consensus, on vote. Et comment ils ont voté, ça c'est pas notre problème. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous attendons qu'on nous amène le résultat. Il y a consensus ou il y a eu vote?
Alors, comment
et c'est tout.
Alors, comment, malgré les pressions à l'intérieur, tout comme de la communauté internationale, le chef de l'État a décidé d'investir Denis Kadima et d'autres membres qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Pourquoi le chef de l'État n'a pas suivi la voie, la raison, notamment de la pression extérieure qui ne voulait pas? Nous avons vu le nonce apostolique aller chez Mbosso, nous avons vu des ambassadeurs africains, tout comme à l'extérieur, dire non, il ne faut pas les faire parce qu'il faut privilégier le consensus.
L'État doit fonctionner. La République doit fonctionner. Un pouvoir digne de ce nom ne doit pas céder devant des pressions qui sont stupides et irresponsables. Lorsqu'il y a des revendications honnêtes, correctes, qui visent l'intérêt général, qui sont solides et compréhensibles, ok, on peut ouvrir des discussions. Mais quand il y a de mauvaises foi, qui visent, nous, nous refusons d'envoyer nos délégués. Donc nous paralysons le processus. Ça ne va pas. Si le président accédait à cela, qu'est-ce qu'on allait dire? Voilà, le président... Il est dans la stratégie de glissement. Qu'est-ce qu'on vous disait? Voilà. Les confessions religieuses ont travaillé, la majorité nette s'est déclarée, on a désigné les membres de la CENI, 12 sur 13, les autres, de mauvaise foi, refusent d'envoyer de délégués. Au lieu d'aller de l'avant, le président bloque le processus. Lui, il est dans la stratégie de glissement. C'est ça, c'est qu'on l'a attaqué.
Alors pourquoi la même communauté internationale n'a pas réagi 48 heures après ou 24 heures après cette décision du chef de l'État d'investir Denis Kadima? Pourquoi ils n'ont pas réagi comme ils l'ont fait avant?
Non, moi, j'ai noté.
C'est la théorie des cercles.
Moi, j'ai noté, Joël Guembo, que les Nations Unies ont déclaré hier, j'ai lu, que nous, au niveau des Nations Unies, nous sommes prêts à accompagner le processus électoral, qu'on nous adresse des demandes, et nous allons accompagner le processus électoral, accompagner le peuple congolais à aller vers des élections crédibles, transparentes, etc. Les Nations Unies se sont déjà prononcées, vous comprenez? Et donc, à notre niveau, au pays, je pense que le président a bien fait. Il fallait aller de l'avant. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des bonnes élections dans notre pays. En 2018, c'était une catastrophe. On va en parler pour cette émission. Et le président dit ceci. Bon, j'appelle toutes les organisations nationales à s'investir dans le processus. Que la communauté internationale vienne. Les observateurs internationaux viennent. Aux dernières élections, on a fait des élections à huis clos. On avait refusé l'observation internationale des élections. Le président ouvre les portes du pays. Il dit, venez nous aider à organiser des bonnes élections. Il demande au peuple congolais de s'approprier le processus. Ce sont les élections du peuple congolais, ce ne sont pas les établis. Le congolais entreprenait le processus. Pas de fraude, il faut des bonnes élections, crédibles, et qui vont contribuer à l'apaisement général.
Alors pourquoi le chef de l'État a préféré précéder la lecture de son ordonnance par un message?
Oui, mais ça, c'est...
Est-ce que ce n'est pas une façon de se justifier, de justifier le tort, le forfait qu'il voulait faire au peuple congolais?
Non, pas de forfait. Mais le président...
C'est un forfait, parce que la toile en parle.
Non.
On dit que c'est du forcing.
Non, pas du tout. Le président, c'est un démocrate. Dans la démocratie, il y a le principe de redevabilité.
Il agit par voie d'ordonnance, oui. Il parle à la nation devant les chambres réunies en congrès, oui. Mais finalement c'est des sorties intempestives.
Mais non, c'est le président.
C'est comme si quelqu'un qui veut justifier, on dit l'ordonnance du chef de l'État est susceptible d'aucun commentaire. D'aucun commentaire. Mais là, il a précédé ça par un commentaire.
Non, ça c'est du n'importe quoi. Ça raconte des histoires. Le président de la République s'adresse à son peuple. Cela est prévu par la Constitution. À quel moment? C'est lui qui choisit. Donc on ne dit pas que vous devez le faire le matin, l'après-midi ou telle
chose. Devant les congrès, l'État de la nation.
Il est libre de le faire. Devant le congrès, l'État de la nation, mais à tout moment, il peut adresser des messages à la population. Voyez-vous. Donc, le président est dans la communication. La démocratie, c'est le principe de la redevabilité. Il doit expliquer à la population pourquoi il a posé tel acte. Pourquoi il n'a pas fait cela. Il doit rendre compte à la nation. Redevable. Et c'est très bien. Et donc, je ne vois pas pourquoi on doit le reprocher.
Toute détention.
Non, ça, il ne faut pas faire de procès. Il a très bien fait les choses. Il a expliqué à la population. Il y a eu un débat général dans le pays. Voilà ma décision. Il a laissé des discussions. Il n'est pas intervenu dans les débats.
Il en donne des motivations.
Bien sûr, voilà. Il n'est pas intervenu dans le débat. Il a laissé tout le monde s'exprimer. Et à fin de compte, il prend ses propres responsabilités en tant que garant de la nation. Il pose des actes. Et il explique pourquoi il a agi dans tel ou tel sens, plutôt que dans tel autre. Et ce qu'il faut retenir dans le discours du président de la République, c'est que c'est un démocrate.
C'est un démocrate.
Il dit, peuple, prenez les élections en main. Ce ne sont pas mes élections à moi, président
Chilombo. Est-ce que ce n'est pas une provocation que le chef de l'État vient de lancer à l'endroit de l'opposition? Parce que nous avons vu quelques échauffourées dans la cité, les mêmes week-ends.
Mais quelle provocation! Le président met en place des membres de la CENI désignés par les forces politiques du pays et sociales. Il y a la société civile. Il y a à peu près 5 membres de la société civile dans cette équipe.
Là encore, il y a eu des débauchages.
Oui,
parce que le rapporteur adjoint, il vient du camp de Moïse Katumbi.
Oui, mais ça, c'est une affaire interne du camp de Katumbi. Les gens se sont expliqués. Les gens de Katumbi ou de Moïse Katumbi, je ne vais pas entrer dans ce débat politicien, qui ont dit qu'il n'y a pas de débauchage. Nous avons décidé en âme et conscience de déléguer telle personne pour nous représenter à la CENI. Ça, c'est le débat interne. Mmh. Ce n'est pas le débat qui concerne le président de la République. Ça, c'est une affaire qui concerne.
Privé.
Ils ont des postes à partager, postes ministériels dans les entreprises. Oui, nous, on n'a pas eu assez, maintenant c'est notre tour. Ça, c'est des querelles qui ne concernent pas le président de la République. Lui, il voit des listes qu'on lui a envoyées. Ce débat a eu lieu au Parlement. Et on lui a envoyé les dossiers. Et lui, il sanctionne. Il ne connaît pas les gens qui ont été choisis. Ce ne sont pas les militants de son parti, de l'UDPS. Vous comprenez? Et donc, le président, c'est une institution de la République. Il évalue l'intérêt général. Quel est l'intérêt général de notre pays aujourd'hui? C'est d'aller aux élections en 2023 et de très bonnes élections.
Voilà. Alors, professeur...
Et donc, on ne peut pas lui reprocher comme s'il a une stratégie secrète. Non, tout le monde réclame des élections, mais
et
alors des bonnes élections et nous allons aux élections.
Voilà, on va revenir comment, est-ce que c'est, qu'il faut-il faire pour une tenue des élections apaisées, crédibles et transparentes. On va revenir dans la deuxième partie. Le temps pour nous d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ces débats, 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue d'un parole aux auditeurs. Alors, Pierre Moussafiri, vous êtes à Goma?
Bonjour, JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Pierre. Quel est votre commentaire?
Merci beaucoup de m'avoir d'abord associé à ce débat. Je dirais que les messages du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, adressé à la population la semaine passée, est venu juste confirmer ce que tout Congolais qui essaye d'analyser et comprendre la situation politique du pays s'attendait de lui. Surtout par rapport à la question de l'investiture de Kadima et son équipe. Mais dire que le contexte de désignation de l'entérinement de ses membres n'est pas le même qu'en 2020 avec Ronsard Malonda, moi je trouve que cela n'est pas la vraie raison et qu'il n'y a pas d'ailleurs une très grande différence vu que le nombre de confessions religieuses qui soutenaient Malonda à l'époque.
Donc pour vous estimez que c'était le même tableau. Deux confessions religieuses ne soutenaient pas Ronsard Malonda. Il s'agit bien entendu des catholiques et des LCC. Et de l'autre côté, il n'y en avait que 6 pilotés en son temps là par Sonny Kafuta. Et qui d'ailleurs a été éjecté à cause de cette affaire de Ronsard Malonda.
Le problème est qu'à l'époque de Ronsard Malonda, la question n'était pas à l'ordre du jour. C'est ce que je peux condamner, moi. Au contraire, moi, je pense qu'il a choisi de signer l'ordonnance pour gagner l'État, mais aussi derrière ça, on peut y avoir quelque chose qui se prépare en 2023 et qu'on veut réaliser en imposant déjà des élections qui ne seront pas crédibles. Cette personne investit aujourd'hui, M. JR, comme président de la CENI, sa candidature avait suscité des doutes et des contestations dès le début du processus. Celui-ci avait été invalidé, puis validé, et voilà, aujourd'hui, il devient le président de la CENI. Alors, comme il n'y a pas moyen encore de dialogue et de négociation, ok, on peut accepter comme ça d'aller aux élections. Mais moi, je pense que qu'il faut maintenant faire d'aller de l'avant pour les préparatifs des élections pour gagner l'État. Mais la seule question que je me pose est celle de savoir si les 3 membres qui manquent pour que le nombre 15 soit complet, s'ils n'arrivent pas à être présentés, est-ce qu'on ira à l'élection avec ceux-là qui veulent, comme l'avait dit Mbosso, ou bien nous allons faire comment? Et je vais citer en disant que moi je ne sais pas si
Ingénieur Pierre. Quelle est la lecture? Comment interprétez-vous le message du chef de l'État avant la lecture de l'ordonnance?
Avant la lecture de l'ordonnance et du message du chef de l'État, moi je m'attendais toujours à ce genre de message. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, Monsieur Gir, tout le monde, tout Congolais, s'attendait à ça. D'ailleurs, moi, ça que j'attendais de lui est d'ailleurs de parler à la question des rames qui dérangent surtout la population congolaise. Mais aussi parler sur les sécurités à l'Est, parce que c'est ce que nous attendons de lui, comme Moïse Katumbi lui avait rappelé de ce qu'il avait dit l'année passée. Mais dire que la confirmation des cas de maladie de la CENI, vraiment, nous, on s'attendait toujours à ça. Avant que Kadima soit investi. Moi, j'avais dit à quelqu'un, on discutait avec quelqu'un, je lui avais dit, Kadima, fin de fait, sera le président investi. De la CENI. Et voilà, aujourd'hui, il est le président de la CENI. Ce que nous voyons, Monsieur Gir, ça, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas du nouveau.
Celui dont la candidature a été invalidée en 2012, qui devienne aujourd'hui le président de la CENI.
Oui. Et ce que nous voyons, mais ce n'est pas du nouveau. En 2023, on aura des élections, mais ça sera les nôtres des élections seulement, mais ça ne sera pas des vraies élections qui seront crédibles, transparentes et apaisées. Ce que l'invité est en train de défendre, ok. Nous acceptons comme ça, mais en 2023, il sera témoin, je pense, qu'il sera encore dans cette émission pour nous dire quelle est la qualité des élections que nous avons eues en RDC.
Voilà. Alors, tout au long de la deuxième partie, d'ailleurs, on va aborder cette question. Que faire pour une tenue des élections apaisées par des solutions? Alors, Ernest, vous nous avez amélioré. Ernest, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Julien, bonjour aux amis qui sont basés sur Radio Capi.
Alors, comment interprétez-vous le message du chef de l'État?
Bon, le chef de l'État, comme on le dit, il a fait le forcing, mais ce forcing-là, c'est qu'il a pris la position de ce qu'on faisait le geste. Bon, l'essentiel pour nous, c'est de voir si les futurs candidats aux élections à venir auront la confiance à l'équipe qui va diriger la CENI. Si ces candidats n'auront pas confiance à ces dirigeants de la CENI, je crois que nous irons tout droit vers les contestations. Et qui dit concession, on peut s'attendre à des violences, et à ces graves violences, ceux qui seront élus n'auront pas le temps de bien gouverner le pays et appliquer les principes de la gestion de l'État, de la chose publique. À ce moment-là, nous allons donc reculer en arrière au lieu d'avancer pour l'amélioration des conditions de vie et de la population et de l'espace Congo pour attirer aussi l'attention des expatriés qui viendront investir ici. Donc je crois qu'il faut déjà. Bien qu'on a déjà notifié ces gens, on en est sur 15, je crois, ou 12, je crois, on sait qu'il est à chercher, c'est de gagner la confiance et que ces gens soient vraiment nets, oublier leur source de provenance pour gagner la confiance de tous ceux qui vont se lancer dans les processus électoraux, les candidats, observateurs, internes et externes, pour que le pire n'arrive pas au pays. Parce que ce que nous cherchons, c'est d'éviter le pire qui est mort l'homme à cause des élections, à cause de ce que nous allons confier le pouvoir pour la gestion de notre espace. Au cas contraire, tous les pays sans tout le temps les élections aujourd'hui peuvent nous arriver.
Alors, Ernest, ceux qui estiment que le chef de l'État ne devait pas, anticiper les choses avant la lecture de son ordonnance par un message, ont-ils raison selon vous? Ou carrément c'était une façon pour lui de se justifier sur les choses qu'on ne pouvait pas justifier?
Bon, le chef de l'État, il est d'abord chef de l'État, il doit aussi avoir, non seulement lui en tant qu'individu, avec son cabinet, pour écouter tous les bons et tous les mauvais, et en sa synthèse, faire les forcing ou copier ce que nous avons vu depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, on devrait évoluer, il doit être vraiment au centre pour le bon fonctionnement des institutions, comme les textes le disent. Donc, faire la guerre avec les uns et les autres, je veux que celui qui aurait à perdre, parce que souvent, en cas de difficulté, ce sont les présidents.
Alors, il y a un auditeur qui a écrit en disant que le chef de l'État a fait du forcing dès lors que lui-même, dans son parti, il a été déjà investi comme candidat en 2023, candidat de certains membres de l'Union Sacrée qui continuent à soutenir sa candidature. Le fait de prendre fait et cause de 6 confessions religieuses au détriment de 2 autres, en tant que, partie prenante du processus, il a mal agi et il a entériné un processus déjà entaché d'irrégularité. Est-ce que vous pensez à cela?
Oui, le processus est entaché d'irrégularité parce que...
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Ernest. Et puis Matadi. Alors François, vous êtes à Mouika. François, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour, Ngembo, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kaka à travers le monde. Et bonjour vraiment à les auditeurs proches de Bilebo, Mouika, ailleurs.
Alors vous avez dit dans votre message, l'heure était tellement grave qu'il a fallu que les chefs de l'État puissent investir Denis Kadima pour gagner du temps, pour faire avancer les processus électoraux. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
Exactement, félicitations pour m'avoir bien lu. Écoutez, je suis politologue de formation, je m'assume avec mes paroles. L'heure était très grave, comme vous l'avez dit également. Pourquoi? Parce que si, comme l'Assemblée nationale a déjà entériné les membres de la CENI, et que si le chef de l'État ne prenait pas acte à travers une ordonnance les investissant, mon frère, je vous informe que toujours la même CENI devrait crier au glissement. Au glissement, pourquoi? Parce que le chef de l'État n'a pas pris acte de ses membres. Donc ça pourrait encore prendre un temps, et quand on va aller au glissement,
qu'est-ce qui nous garantit avec l'absence de ces trois membres qui proviendraient de l'opposition, le glissement là n'arrivera pas?
Mais écoutez, l'absence là ne sera pas longue. Incessamment, le parti qui reste
c'est l'opposition. Dans la plupart des cas, c'est l'opposition.
Oui,
Martin Fayoul l'a dit, il n'enverra pas ses délégués.
Présent.
Martin Fayoul a refusé de désigner les membres.
Non, c'est encore au début. Il pourra appeler ses idées pour que tous puissent être représentés au niveau de l'assemblée plénière de la CENI. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui me guette, monsieur Gilles Lungu. Ce qui est important, nous en tant que reporters, nous sommes des conseillers indirects des hommes politiques. Vous savez, ce qui est important pour l'instant, c'est que comme le train a déjà quitté la gare, c'est-à-dire on a investi par le Parlement, le président a pris acte, les partis politiques doivent maintenant se préparer leurs militants durement, moralement, pour être souple dans les bureaux de vote. Vous savez, même si Félix Tshisekedi est présent sortant, n'avez-vous pas vu le présent sortant en Afrique échouer les élections? Ça c'est un. N'avez-vous pas vu...
Non, mais il n'est pas président sortant.
N'avez-vous pas vu...
Constitutionnellement, il a droit à deux mandats. Constitutionnellement, il a droit à deux mandats. C'est le troisième mandat qui est...
Non, ça c'est vous qui le dites, c'est que le commun des mortels le dit, mais officiellement, des mandats, ok, mais si...
Non, constitutionnellement, il a droit à deux mandats. Mais je ne dis pas que, légitimement, il a deux mandats.
Voilà. Mon problème, c'est que l'opposition doit préparer ses militants d'être vigilants et aux aguets lors des élections dans les bureaux de vote. Parce que cette fois-ci, on a compté bulletin par bulletin. On va voir qui a gagné et qui n'a pas gagné. Il y a des présents en fonction qui échouent. Nous en avons vu en Zambie ici. L'opposant est passé. Nous en avons vu. Il y a des exemples sur les gens au Ghana et ailleurs. Donc, j'interpelle Moïse Katumbi, Fayoulou. J'interpelle une fois de plus nos amis de FCC. Donc tous les acteurs politiques hostiles au chef de l'État de se préparer conséquemment. Sinon, ils vont en regretter, ils vont donner la chance.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, François, d'avoir appelé de Mouika. On va écouter Maître Mbokolo, puis on reviendra à notre invité. Maître Mbokolo, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Maître Edmond.
Oui.
Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Monsieur Lavande, vous êtes là.
Oui, Maître Edmond, vous êtes avec nous? Voilà, 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Finalement, certains estiment qu'il y a du forcing dans ce qu'a fait le chef de l'État. D'autres, par contre, soutiennent et disent on doit avancer dans le processus, mais il y a quelques inquiétudes. Arriverons-nous à avoir des élections crédibles, apaisées et transparentes en 2023, professeur?
Cher Longuembo,
vous qui êtes souvent visionnaire.
Je vais vous répondre, voyez de boutade. Les confessions religieuses qui sont inspirés par Dieu, par Saint-Esprit, il n'y a pas eu de consensus. Donc, ne vous attendez pas à ce que tout le monde dise que le président de la République a bien fait les choses. Il y aura toujours de points de vue différents, tout à fait exact. Donc, je confirme ce que je dis. Le président de la République est sur une bonne trajectoire et il avance bien. Le pays, sur le plan économique, les perspectives sont très bonnes. Nous avons des opportunités jamais vues devant nous pour tirer ce pays vers le haut, vous comprenez? Et donc, les réserves d'échange, on pourra en parler un autre jour. Et donc, le pays, on est en train de poser des jalons, des fondements pour le redressement de ce pays, économique et social. Il ne faut pas s'enfermer dans des querelles politiciennes, des querelles stupides qui n'ont aucun sens, Jean-Luc Nguembo. Eh bien, le débat dans les confessions religieuses, Kadima ou pas Kadima, mais écoutez, monsieur Jean-Luc Nguembo, Kadima, ce n'est pas Kadima qui organise les élections, monsieur. On ne va pas commencer à s'acharner sur un homme. Ce n'est pas Kadima qui organise les élections. Est-ce qu'on a lu les pouvoirs du président de la CENI? La CENI, c'est un collège. Les décisions se prennent de manière collégiale. Le président n'a pas de pouvoirs propres où il peut dire, c'est moi le président, moi je décide, moi je fais ceci. Et il y a même une organisation, une structure tripartite. Société civile, opposition, majorité, pour garantir qu'il y aura des débats sereins, que personne ne va s'imposer sur les autres, que personne ne va prendre son point de vue, l'imposer aux autres. Kadima, c'est un simple coordinateur, il préside. Mais il annonce les décisions prises par un collège. Kadima ne décide pas seul. Kadima n'organise pas les élections, monsieur. Kadima, c'est une espèce rare, si vous avez dans votre communauté un homme, votre pays comme Kadima, qui a fait un parcours extraordinaire, qui a mené une carrière internationale du type rotarien, comme lui. Il faut vous en réjouir. Il faut lui donner l'occasion de servir le pays, de servir la République. C'est une espèce rare, du moins pour aujourd'hui. Et ce monsieur, il vient, Kadima ne dépense pas l'argent. Je vais venir dans la deuxième partie de cette émission sur la question essentielle.
Et il n'est pas pour autant le seul à avoir cette expertise.
Oui, oui,
et mais d'ailleurs, mais en liste, ils sont restés avec Sapu.
Avec un Sapu. Mais Sapu. Les autres ont dit, entre lui et un Sapu, lui, il peut faire mieux. C'est un choix.
Les six.
Oui, oui, les six. Mais attends.
Qui insistaient sur Kadima.
Jean-Luc Nguembo. La démocratie fonctionne sur la base du principe majoritaire. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on décide par la majorité, par le consensus? Eh bien, si la majorité nette se déclare dans une organisation, c'est la majorité qui compte. Eh bien, je l'ai dit et je l'ai répété, l'Église catholique que je respecte, c'est une Église prestigieuse, et moi j'ai étudié grâce à l'Église catholique, je respecte les dirigeants catholiques, je n'ai aucun problème avec ce. Mais l'Église catholique n'a pas le droit de veto. L'Église catholique n'a pas un vote pluriel pour dire « ma voix doit compter 10 fois par rapport aux autres ». C'est l'égalité parfaite. La Chine a une voix, le Burundi a une voix aux Nations Unies. Et ça ne pose aucun problème. Ce sont eux-mêmes qui ont accepté cela. Et donc, je suis d'accord avec les auditeurs qui disent que le problème est ce qu'on aura des bonnes élections. C'est là l'essentiel. Et donc, ce n'est pas le président qui organise les élections. C'est pas lui. C'est pas le premier ministre. Ce n'est pas Mbosso à l'Assemblée nationale. C'est notre peuple qui organise les élections. Par le biais d'une institution d'appui à la démocratie. Alors, investissons le processus électoral. J'ai beaucoup apprécié, c'est Ernest, ce qu'il dit, ou François. Il dit, si le président de la République avait dit non, on n'avance pas, il allait être sous le feu de critiques, de attaques,
vous voyez,
il veut gagner du temps, il veut glisser, pas ça. Il est resté, je vais terminer par là, il est resté dans le schéma classique.
Mais vous êtes quand même un grand analyste politique.
Oui.
Et quand on regarde l'histoire politique de notre pays, on se rend compte que l'Église catholique notamment a toujours joué un rôle important. Et surtout si nous rentrons, en tout cas dans un passé très récent, avec l'incursion du CLC, qui a pu organiser des marches et des marches aux côtés de l'UDPS et beaucoup d'autres membres de l'opposition, l'Église catholique qui a réussi même à mettre dos au mur l'ancien chef de l'État pour l'amener à organiser même le dialogue qu'on a nommé, le dialogue de l'ancienne cour au niveau des centres diocésains. Mais finalement, aujourd'hui, les diables, c'est l'Église catholique.
Oui,
quelle lecture faites-vous?
Non, moi, personnellement, je respecte l'Église catholique, réclame la tenue de bonnes élections dans notre pays. Nous avons un mauvais passé, Jean-Luc Nguembo, pour les élections. Il n'y a que des contestations. En 2006, on a incendié la Cour suprême.
Mais qu'est-ce qui nous garantit que...
Et donc, l'Église catholique, qui n'est pas la seule, qui n'est pas seule, tous nous revendiquons qu'il y ait de bonnes élections. Et de ce côté-là, nous sommes tous d'accord. Parce qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui demande de bonnes élections. Nous sommes tous d'accord.
Mais l'Église catholique... Avec cette cour constitutionnelle, selon certains observateurs, acquis déjà au pouvoir.
Nous allons y arriver. Deuxième partie de l'émission. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas Kadima qui organise les élections. Mes chers amis.
Mais la dernière décision, c'est la cour constitutionnelle.
il ne faut pas vous acharner sur un homme. Ce n'est pas lui qui décide. C'est une équipe qui décide, c'est la CENI. Les 15 membres, c'est un collège. Pourquoi vous vous acharnez sur un homme? Kadima. Il faut arrêter ça, monsieur. Les autres peuples...
Sa proximité provinciale, sa proximité régionale.
Écoutez, ça c'est encore une bêtise. Nous devons tous nous mobiliser pour sortir de la barbarie électorale. Ce qui s'est passé dans notre pays au cours des dernières années, c'est de la barbarie tout simplement. Et nous devons tous nous mobiliser pour faire en sorte que cette fois-ci soit la bonne. Et moi j'ai des propositions à faire. Et donc, le président a bien fait pour qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on avance. Mmh. Il faut qu'on ait des dirigeants légitimes. La dernière fois, il n'y a pas eu même des compilations, des calculs des résultats dans les centres de compilation. Aucun centre sur les 180 à peu près n'a fonctionné.
Il y en a quelques-uns qui n'avaient même pas commencé les dépouillements, la compilation.
Mais vous êtes gentil. Aucun n'a compilé. Il n'y a eu aucune personne. Nulle part. On a proclamé les résultats pour les députés nationaux, députés provinciaux, sans compilation des résultats. Les centres ont été fermés. Ça, c'est de la barbarie. Et donc, devant le passé électoral mauvais que nous avons, il est tout à fait normal que les gens se mobilisent pour dire, en 2023, pas de fraude électorale. Et c'est bien.
Mais c'est propre. Mais qu'est-ce qui les garantit? C'est ça le...
Mais nous allons le faire. Mais c'est lui qui garantit. C'est le peuple lui-même qui doit tout faire pour qu'il y ait de bonnes élections. Nous avons
Mais ce peuple-là dit non à Kadima.
Mais attention, c'est ce que j'ai dit au peuple congolais. Ce n'est pas Kadima qui organise les élections. Kadima peut partir, on met quelqu'un d'autre, ce n'est pas celui-là qui va organiser les élections. Les élections sont organisées par une équipe, un collège. Kadima peut partir, on met quelqu'un d'autre, ce n'est pas celui-là qui va organiser les élections. Il ne faut pas se tromper. Nous ne devons pas nous tromper des cibles.
C'était des accusations gratuites qu'on avait faites à Rossa Malonda.
Oui, mais Malonda, c'était la perception.
Parce que ce n'est pas Malonda qui allait organiser les élections, c'est toute une équipe.
Tout à fait. Mais à l'époque de Malonda, c'est quoi? Parce que Malonda a fait partie d'une équipe...
Qui avait déjà travaillé avec Nang.
Oui, avec une équipe qui...
Mais les hommes changent quand même.
Mais justement, il était dans l'équipe, c'était la perception. La perception. Une équipe qui a très mal travaillé, qui n'a pas fait la compilation par exemple, les dirigeants même sanctionnés par la communauté internationale. Mm-hmm. Alors si on prend quelqu'un de cette équipe-là, dit « bon, maintenant vous allez continuer », la perception c'était qu'il a été dans une mauvaise équipe, il était complice de ce qui s'est passé, mais ça c'est le passé. Malonda, en tant qu'individu...
On change l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui n'a pas gagné, on ne peut pas...
Malonda, en tant qu'individu, il n'était pas peut-être lui-même responsable de ce qui est arrivé. Il était subalterne, très loin. Mais malheureusement, il était à un mauvais endroit...
Au mauvais moment.
Mais donc, la politique, les perceptions, ça a été fait. Mais, et puis les conditions de sa désignation, nous l'avons dit, il n'y a même pas eu un débat au Parlement pour dire, oui, mais là, les candidats, ceci, comment ça s'est passé pour les
alors, États. Professeur, si vous
voulez. Donc, je vais terminer là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec tous les auditeurs qui disent, il faut des bonnes élections en 2023. Et le président de la République est le premier à le réclamer. Il dit, ce n'est pas moi, président, lui, qui organise les élections. Ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. Mais c'est la CENI qui organise les élections. Peuple, prenez ce processus en main. Travaillons tous ensemble pour qu'il n'y ait pas de fraude.
On va voir si...
Alors, qu'est-ce que vous reprochez au président de la République qui vous dit, venez, pour qu'on ait un processus transparent, clair et propre. Prenons les choses en main.
On va retourner de l'autre côté pour accueillir les auditeurs qui vont faire des propositions après la première série des auditeurs. On prend Amos. Amos, vous êtes avec nous à Bukavu?
Oui, je suis avec vous, Gilles.
Alors, pensez-vous qu'en 2023, il y aura des élections crédibles, transparentes et apaisées? Quelles doivent être des préalables?
Je doute, Gilles, à la lire où vont les choses. Au fait, tout Congolais sérieux doit comprendre qu'il y a eu une magouille de l'UDPS avant, pendant, jusqu'à la confirmation de Kadima comme président de la CENI par le président de la République. Et tout le monde l'a constaté ainsi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je voudrais même poser la question à l'invité. Pourquoi Dodo Kamba a signé le PV sans qualité? C'était une tricherie à ciel ouvert. On sait ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une Assemblée nationale sérieuse. On a un président de l'Assemblée qui serait considéré comme une télévision et dont la télécommande serait alimentée, c'est très grave. Je venais de suivre l'invité qui dit non, ce n'est pas le président de la CENI qui organise les élections. Acceptons-le ainsi. Mais pourquoi alors l'IDPS se bat pour qu'elle contrôle la CENI? Elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi nous avons nos politiques. Nos politiques savent que si elles ne contrôlent pas certaines institutions clés du pays, compte tenu de leur gestion médiocre.
Oui, parce que tous les débats, et d'ailleurs la contestation de l'ensemble pour, de la République, c'est autour de ça. Parce que il disait il faudrait nous donner un poste clé au niveau de la CENI, soit les rapporteurs ou soit le vice-président de la CENI, et le poste qu'ils n'ont pas obtenu.
Tout à fait. Dédé, vraiment, comme je l'ai toujours dit, la politique c'est de la sorcellerie. D'apprendre, de constater aujourd'hui que l'IDPS peut s'apprendre à l'Église catholique. Nous tous, nous savons les rôles qu'a joué l'Église catholique aux côtés de l'IDPS et d'autres forces politiques et sociales du pays pour mettre dos au mur les régimes sortants. Mais comme tous les politiciens congolais sont les mêmes, voilà aujourd'hui que l'IDPS s'applique et est tombé dans son propre piège. Et il dit que non, le président a signé ses ordonnances juste pour qu'il y ait élection en 2023. Moi, je suis votre auditeur fidèle et j'aimerais qu'un jour vous puissiez encore inviter l'invité d'aujourd'hui.
Professeur Tshibangu Kalala.
Techniquement, les élections ne sont pas organisables en 2023. À l'heure où nous parlons. De deux, il y a d'autres problèmes sociaux qui dérangent. Il y a la guerre à l'Est. Il y a aujourd'hui nos enfants qui n'étudient pas. Grève des enseignants. Il y a la taxe, une escroquerie du régime.
Les conditions dans lesquelles on a déclaré l'état des sièges n'ont pas encore changé. Ça risque d'aller jusqu'en 2023.
Il y a beaucoup de questions qui fâchent JR et qui ne permettent pas au peuple congolais d'aller aux élections en 2023. Et d'ailleurs, vous avez suivi qu'il y a encore un dialogue qui serait quelque part sur table.
Non, un forum sur la cohésion nationale. Ça, c'est autre chose.
La population au nom de, pour vouloir défendre sa position. Je voulais citer en disant quoi, JR. Moi, je pense que le chef de l'État est tombé dans le piège de ses flatteurs au nom des calculs politiques, au nom de la géopolitique. Et ça, nous devons éviter. Il faut être moins sérieux pour dire que le chef de l'État a bien fait à ses ordonnances. D'ailleurs, tout le monde s'attendait à un discours qui devait toucher les problèmes sérieux qui dérangent le peuple congolais aujourd'hui. Mais on a été surpris parce qu'à mon avis, je me disais, le chef de l'État devait signer ses ordonnances et qu'on devait le lire à la RTLC sans pour autant dire qu'il a un discours à la nation. C'est trop ridicule. Et c'est là que j'ai un cesse de dire, le chef de l'État serait très mal entouré. Au lieu qu'il s'entoure des gens qui ont compris le problème du pays, on est parti amener des affairistes qui sont juste venus faire tomber le président dans des pièges. Moi, je pense à la ligne où vont les choses. Aujourd'hui, il y a déjà, le climat est vraiment malsain au pays. On ne sait pas où on va où. Que les gens cessent de tromper le chef de l'État. Beaucoup ne devaient pas penser qu'avec le président Félix au pouvoir, avec l'IDPS, la population va encore vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est là que moi j'ai dit, je ne cesse de le dire, la RDC n'aurait pas de chance. Parce que quand le peuple congolais s'attend au vrai changement par rapport à la vie qu'elle a toujours menée, c'est là que la situation s'empire davantage. Et au lieu qu'ils déjà disent la vérité au chef de l'État, ils sont en train de les flatter au nom des postes, au nom des petits intérêts égoïstes.
Merci beaucoup.
Moi, je pense que la situation est très grave. Il y a déjà des marches qu'on prétend organiser sur les années de la République, non seulement par rapport à la politisation de la CENI, par rapport à la guerre à l'Est, par rapport à l'escroquerie de la taxe RAM, de ce régime. Et là, que l'invité ne trompe pas l'opinion. Je ne vois pas les élections s'organiser en 2023. C'est plutôt l'IDPS qui voulait d'abord avoir le président de la CENI dans sa poche avant qu'on ait un blog qui est déjà préparé quelque part.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos. Alors, Kalo Kalonji, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour, Kalo.
Oui, bonjour, M. Gire, et bonjour à votre invité que je salue. Je commence d'abord par vous dire que l'autre ami qui vient de parler là, doit avoir quand même une retenue, parce que quand il fait des accusations gratuites par rapport à l'IDPS, moi je dis, il n'y a pas de preuve pour confirmer aujourd'hui que l'IDPS a profilé M. Kadima. Là, il doit quand même enlever dans sa tête. Mais ce qui est vrai que les confessions religieuses, nous avons toujours dit ensemble, M. Gire, sans parti pris, qu'ils nous ont déçus. On donnait même 200 aux confessions religieuses. Moi, je pense que les confessions religieuses ne pouvaient pas nous donner un candidat par consensus. C'est que moi, j'ai toujours dit.
Alors, vous soutenez l'action, la démarche du chef de l'État de faire avancer les choses.
Accordez-moi quand même, j'ai changé de choses.
Oui, allez-y, il y a beaucoup d'auditeurs. On ne saura pas prendre tout par rapport à notre temps.
Mais, Monsieur le président de la ville, avec l'essentiel. Il ne faut pas confondre les choses, les temps de Malonga, qui nage, la matière qui n'a jamais même été inscrite dans l'ordre du jour dans l'Assemblée. C'était une précipitation de l'Assemblée du bureau de la, du temps. Moi, je trouve que le président a fait, on peut évoluer avec ce qui évolue. Ici, on ne peut pas dire qu'il va faire mal ou va faire le mauvais. Non. Ici, donnons la chance aux amis, que l'opposition, que les gens qui sont contre Kadima puissent se mobiliser, chercher des cartes fous, faire tout ce qu'il faut.
Oui, Kalo, dans votre message, vous avez dit, nous voulons les élections dans les délais, allons-y, que chacun prépare la bataille, le vin est tiré, on doit les boire, ne prêtons pas la mauvaise intention au bureau actuel. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
J'ai dit ça pour moi, mais c'est géré. Retenez seulement que les gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils parlent trop là, ils n'ont pas la base effectivement. 2023 est là. Vous allez voir effectivement qu'il y aura des partis politiques qui seront toujours les
alors,
partis
donc politiques. Alors, vous estimez qu'en 2023, il y aura des élections. Même techniquement, comme l'a dit Amos, que c'est impossible.
C'est ça le souhait.
Merci beaucoup, Kalo. Alors, Simon Siloulou, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Oui, bonjour à vous, bonjour à l'invité et bonjour à tout le monde du monde qui suivent la radio Okapi. En fait, moi je pense, il arrivera des fois où les Congolais, nous devrons éviter la passion dans la question politique, dans la question gestion. Nous devrons être sobres. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que des grands penseurs disaient que la raison est grecque et l'émotion est africaine. C'est parce qu'on traite des choses par émotion. Mais c'est JR et tous les auditeurs par leur respect qui nous suivent. Moi, je pense que on doit avancer. On doit progresser. Imaginez, nous avons 8 confessions religieuses. Donc, Bill Clinton disait faire la même chose et penser obtenir un autre résultat, ce n'est pas être différent d'un fou. Nous avons 8 confessions religieuses. À la première tentative, on a osé, on a trouvé 6 contre 2. Les 2 ont dit non, ce n'est pas normal, nous devrons recommencer. Les 6 ont accepté de recommencer. On change de personne. On passe à la deuxième étape. À la deuxième étape, on garde les mêmes 8 confessions religieuses. Faites trouver une solution. On tombe encore sur 6 contre 2. Qu'on puisse encore borrer. Vous voyez, nous allons faire la même chose et nous voulons obtenir autre résultat. Si nous voulons obtenir autre résultat, moi je pense qu'il faut augmenter le nombre de confessions religieuses. Là, peut-être nous n'allons pas tomber sur le même résultat. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que ici, nous devrons voir les problèmes de manière positive. Nous devrons cesser de discuter sur un individu. La CENI, c'est toute une institution. Il a des règles, il a des lois. Et nous-mêmes, nous savons les 3 cycles où nous avons échoué.
J'ai retenu une chose, Simon, dans votre message. La décision est bonne, seulement à chaque parti politique de s'organiser de telle enseigne que les erreurs de l'autre fois ne se reproduisent pas. Donc, c'est ce que notre invité m'a proposé tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, on va vite avec notre invité. C'est vrai, on va de contestation à contestation, depuis Malou. Finalement, l'histoire se répète et généralement, on n'a pas la chance d'avoir. Mais quelle doit être la solution? Que faire pour une tenue des élections apaisées, crédibles et transparentes en 2023, professeur?
Oui, très bien. D'abord, je félicite François Dilebo, Kalonji de Mbujimaï,
Simon Tilou de Matadi,
Jean-Baptiste
et Sylvain,
qui ont très bien parlé. Il faut être pragmatique. L'équipe CENI est déjà là. Ceux qui sont membres de la CENI ne sont ni des anges, ni des démons. Ce sont nos compatriotes. Avec leurs défauts, leurs qualités. Ils viennent des horizons différents. Opposition, majorité, société civile. Ils travaillent sur la base des lois de la République pour gagner les choses. On ne va pas leur donner carte blanche. Il faut les contrôler, il faut les surveiller. C'est ça. Les partis politiques qui sont des acteurs de terrain, c'est le moment de commencer à se préparer. L'éducation civique de la population.
Se mettre en ordre de bataille.
Recruter leurs candidats, préparer leurs témoins, leurs observateurs, etc. C'est le travail qu'il faut faire. Au lieu d'aller perdre du temps dans la rue. Oui, peuple, descendez dans la rue, allons dans la rue. Les élections, c'est pas dans la rue, c'est dans les urnes. Il faut les préparer maintenant.
Ça, c'est pour le compte des partis politiques.
Ça, c'est un. Et deux, encore une fois, monsieur Kourou, il faut que nos compatriotes retiennent cela. Ce n'est pas Kadima qui organise les élections. Kadima peut partir, remplacé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas celui-là qui va organiser les élections. C'est l'équipe qui organise. Très bien. Maintenant, nous avons un très mauvais passé électoral. Tous ceux qui se mobilisent, qui réclament qu'il nous faut des bonnes élections, ils ont parfaitement raison. Est-ce que les élections auront lieu en 2023? C'est la CENI qui va nous le dire, qui va faire le chronogramme des opérations préélectorales, électorales, etc., dans les délais, les moyens qu'il faut. Ce sont des bons techniciens là-bas, ils savent ce qu'il faut faire. Personne ne peut déjà aujourd'hui dire « oui, il n'y aura pas élection en 2023 ». Sur quelle base? Vous fondez sur quoi? Ce sont des enfantillages. Laissez les experts en matière électorale, la CENI qui est là, il va proposer le programme, le calendrier, le chronogramme, technique suivant le temps des opérations, etc. Voilà, ça c'est un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, je fais une proposition. Je fais cette proposition à l'équipe Kadima, parce qu'on parle beaucoup de Kadima qui est devenu une vedette. Je fais cette proposition à l'équipe Kadima, à la CENI. Je vais dire au président Kadima, parce que j'ai appris qu'il va prêter serment demain devant la Cour constitutionnelle avec cette équipe. Il faut nous tirer de la barbarie électorale et nous amener dans la civilisation. Il ne faut pas que les enfants du Congo meurent, s'entre-déchirent, on brûle les maisons, on se tue, etc. à cause des élections mal organisées. Kadima, vous avez une mission de nous sortir de la barbarie, une fois pour toutes. Vous connaissez mieux que quiconque, que nous tous, le système électoral dans beaucoup de pays africains. Nous avons un modèle en Égypte, le modèle égyptien, mais qu'on peut adapter à notre situation. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Ce sont les magistrats qui organisent les élections en Égypte, dans les bureaux de vote, les magistrats. Puisqu'il y en a, il n'y a pas assez, on organise les élections pendant 2 mois. On ne fait que voter, parce que les avocats doivent se déplacer pour sa province. Nous pouvons nous inspirer de ce modèle-là, mais l'adapter chez nous. L'Égypte, ce n'est pas la RDC. Je propose que la CENI réfléchisse à cette proposition. Quel est le problème? La transparence des élections, c'est au niveau des bureaux de vote et surtout au niveau des centres de compilation. La proclamation des résultats, ce n'est pas ici à Kinshasa. Ce n'est pas Kadima et son équipe ici qui va proclamer les élections législatives, etc., pour les résultats. Les élections sont proclamées au centre de compilation. C'est dans la loi. Les résultats qui arrivent à Kinshasa, on fait tout juste pour une coordination. Mais la vraie proclamation des résultats, c'est dans les centres de compilation. Nous en avons à peu près 180 au niveau de chaque territoire. C'est là où il faut faire la bataille. C'est là où j'aimerais voir l'Église catholique avec ses milliers d'observateurs nationaux, la société civile, les observateurs internationaux, etc. Il n'y en a pas beaucoup, c'est 180 centres à peu près, 82 ou 81. C'est là où il faut assurer la transparence. Il ne faut pas venir embêter Kadima ici. Oh, Kadima, Kadima, Kadima. On se trompe des cibles, mesdames et messieurs. C'est au centre des compilations. Mais le problème au centre des compilations, c'est quoi? C'est que on vous envoie quelqu'un qui tombe du ciel là. On dit, ouais, mais la CENI a envoyé déjà quelqu'un qui est venu de Kinshasa. C'est lui qui va superviser le travail de comptage de voix, etc. de proclamation. Un inconnu. Envoyé par des partis politiques qui manipulent les choses. On ne sait pas d'où il vient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut mettre au centre des compilations des magistrats et des avocats. Des magistrats et des avocats au centre des compilations. Je peux prendre l'exemple de votre province à vous. Il y a 5 territoires, plus le chef-lieu de province. Ça ne fait que 6 centres de compilation. Est-ce qu'on peut manquer 18 avocats et magistrats qui sont des gens assermentés, honnêtes, corrects, qui peuvent être là pour superviser le comptage des voix et la proclamation des résultats? S'il y a des erreurs matérielles, on les corrige là-bas même. C'est prévu dans la loi. Si vous constatez qu'on a mal compté vos voix, qu'il y a des erreurs, c'est là-bas que ça se fait. Et on va corriger et proclamer de bons résultats. Donc les élus savent déjà partir du centre de compilation qu'ils sont élus. Les perdants, ils savent déjà au centre de compilation qu'ils ont perdu. Et donc, il y aura même...
Ça éviterait des longues marches vers la cour constitutionnelle, vers la cour d'appel.
On va aller vers zéro contentieux électoral. Parce que le contentieux électoral, généralement, c'est le contentieux des erreurs. On a mal calculé. Mais ce n'est pas à Kinshasa qu'on calcule les voix. Les calculs des voix, ça se fait au centre des compilations. Donc si vous avez vos procès-verbaux en main, et vous êtes bien organisé. Vous avez déjà compté les voix obtenues par vos différents candidats. Vous savez si vous avez été élu ou vous avez été battu. Mais c'est au centre. Alors, il faut mettre des gens retraçables. On sait que tel avocat, tel magistrat était dans tel centre. Ils viennent de tel parquet, de tel tribunal, de tel barreau. On sait s'il y a un problème dans un centre de compilation. On sait à qui s'adresser. Et donc, nous devons renforcer la transparence et l'honnêteté des élections là-bas. Ce n'est pas chez Kadima qu'il faut venir embêter. Kadima.
Voilà.
Nous perdons le temps, perdons des cibles.
Donc Kadima, s'il veut réussir, il n'a qu'à renforcer.
Et si Kadima veut réussir, nous sortir de la barbarie.
Et nous amener vers la civilisation.
Il faut bien structurer le travail au niveau des centres de compilation en mettant des juristes, praticiens du droit, des gens assermentés qui ont une déontologie et qui peuvent nous garantir qu'au niveau de nos circonscriptions électorales, le travail va se faire correctement. Ils vont bien interpréter la loi électorale et les pratiques. Je pense que c'est une solution qu'il faut tenter. Surtout qu'aujourd'hui, avec la machine à voter, tout le monde aura les procès-verbaux. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sur cette réforme.
Voilà.
Ça va garantir, permettre.
La réflexion est lancée.
À tous ceux qui réclament des bonnes élections, libres, honnêtes, transparentes.
Donc, c'est possible.
Et c'est faisable.
Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes analyste politique, ancien ministre, le premier ministre. Vous êtes cadre d'un parti politique de l'Union Sacrée aujourd'hui. Alors donc, merci de nous avoir honoré de votre présence et on se retrouve dans un autre débat. Merci. Je crois que les soirs ici, vous prenez votre avion pour aller à l'étranger. Merci beaucoup.
Merci
professeur et merci de nous avoir honoré. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs.